Il s'agit avant tout d'un problème géopolitique. Réagir au retour spontané du loup en France et à sa dispersion dans une campagne que la déprise rurale rend presque à son passé de Gaulle chevelu. Le problème du loup a évolué à bas bruit. En 1992, un couple de loups italiens part en exploration et fait royaume dans le vallon de Molière, au nord de Nice, dans les Alpes du Sud. Ils reportent une partie de leur prédation sur les troupeaux de moutons peu protégés des Alpes-Maritimes. Le conflit avec les éleveurs commence. Les loups dispersants partent fonder de nouveaux royaumes. Ils voyagent de nuit, passent les autoroutes, traversent les fleuves à la nage, invisibles d'être inconcevables. Un jour, le loup est aperçu dans les Vosges. Il vient du Mercantour. Un jour, on l'aperçoit dans le massif du Madres, loin dans les Pyrénées. Il est à Canjuères, dans la vallée de Bargès. Il est dans le Jura, dans le massif central, dans la Meuse. Un jour, il est ici. Le loup est là, disent à l'abri des cafés les forestiers et les ermites. Le loup est là. Le cri murmuré se répand et résonne d'affût en affût, de clocher en clocher, jusqu'aux abords des grandes villes. Des deux loups présents en 92, la campagne française est parsemée, suivant les comptages officiels, de plus de 300 loups en 2015. Les populations sont difficilement localisées, quantifiées, référencées. Car le loup a cette particularité d'être présent comme invisible. Sauf pour les éleveurs, dont les troupeaux subissent des attaques récurrentes. La saisie par les bergers et les éleveurs du levier médiatique transforment le silence en problème politique. Extrait du livre Les diplomates de Baptiste Morisot, philosophe et écrivain. On se retrouve aujourd'hui pour parler donc du loup, mais pas du grand méchant loup ou du loup vénéré et idéalisé, mais du loup Canis lupus et sa situation en France et ses interactions avec l'homme depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. La vision de l'homme sur le loup a beaucoup évolué au cours du temps. Il est passé d'une espèce à exterminer à tout prix à une espèce strictement protégée, menacée et vulnérable, inscrite à l'annexe 2 de la Convention de Berne. Mais aujourd'hui, nous avons à faire un retournement de situation, car en décembre dernier, les 50 États membres de la Convention de Berne ont voté un abaissement de sa situation de protection. Il passe donc d'une espèce strictement protégée à une espèce protégée simplement. Donc il passe de l'annexe 2 à l'annexe 3. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça va impliquer très certainement, rien n'est encore sûr, mais ça va sûrement impliquer que le loup va pouvoir devenir une espèce chassable. Mais on peut quand même noter que malgré cet abaissement de situation, le loup va rester une espèce protégée en France et dans toute l'Europe. Donc pour saisir tout le bruit qu'il y a autour du loup, il faut d'abord comprendre qui il est vraiment. Et pour ça, il va être nécessaire d'étudier ses aspects biologiques et comportementaux. Et on va voir que c'est avec une connaissance de cette espèce, une connaissance du loup, qu'on va pouvoir anticiper son retour, sa présence sur tel ou tel territoire et pouvoir tenter de l'appréhender au mieux. Donc on va commencer par le commencement avec l'arrivée du loup. Donc le loup, il est arrivé il y a moins 1,8 million d'années, au début du Pléistocène, lors d'un phénomène qu'on appelle le phénomène du Wolf Event. Ce phénomène correspond au début d'un changement climatique sur Terre, en Europe, en faisant disparaître en fait la majorité des forêts et en modifiant le paysage. Et on sait à ce moment-là qu'il va y avoir la formation de biomes de steppe toundra. Donc en fait, cet événement, il va favoriser l'arrivée de certaines espèces comme les gazelles, le cheval, enfin tout un tas de mammifères. Et c'est à ce moment-là que le loup arrive en Europe. Il était présent sur d'autres territoires, mais donc c'est au moment du Wolf Event que le loup est arrivé en Europe. Donc pour reprendre les bases, donc le loup, c'est un grand prédateur, puisque son poids, pour ce qui caractérise les grands prédateurs, c'est un poids supérieur à 21,5 kg. Les mâles font entre 30 et 40 et les femelles entre 20 et 30. Il fait partie de la famille des canidés, du genre Canis et donc de l'espèce lupus, donc Canis lupus, son nom scientifique. Il fait partie de l'ordre des carnivores. Donc les carnivores, si on le décompose, on voit qu'on a carnis, qui veut dire la viande, et vovare, qui veut dire dévorer. Donc carnivore, ça désigne à la fois un régime alimentaire et un ordre taxonomique. Donc le loup est un carnivore et ce qui caractérise tous les carnivores principalement, ce sont la présence de quatre carnassières. Donc on voit que le loup a bien ses quatre carnassières. Donc il va, comme à peu près tous les carnivores, il va se nourrir en pratiquant la prédation. Donc il va chasser ses proies pour les tuer. Et on observe que ce qui est important à noter, c'est un animal polyphagique. Donc il va se nourrir de proies de différentes espèces. Il ne va pas se contenter d'une seule espèce. Ce qui est très important aussi pour comprendre le fonctionnement du loup, c'est qu'il est caractérisé comme un animal opportuniste. C'est-à-dire qu'il va adapter son régime alimentaire en fonction du milieu. Et d'ailleurs, on voit que le loup est capable de vivre dans n'importe quel milieu, en passant du désert à la steppe toundra, avec des températures complètement gelées. Une étude sur 9 meutes de loups dans les Alpes montre que leur régime alimentaire, il va s'élever donc à 76% d'ongulés sauvages. Donc là, on a les chevreuils, les cerfs, les biches, etc. Et 16% d'animaux domestiques, donc tous les animaux du pastoralisme. Donc que ce soit les caprins, ovins et les bovins. Et on retrouve 8% de son alimentation qui va être consacrée à ce que les scientifiques qualifient de divers. Donc on voit qu'ils vont pouvoir se nourrir de petits fruits, de baies, d'herbes. Et donc ça montre bien que c'est un animal opportuniste. S'il se retrouve dans un milieu où il n'a pas assez de ressources alimentaires d'ongulés sauvages, il va pouvoir compléter son alimentation. Et donc ça lui amène une grande capacité d'adaptation. Et cette capacité d'adaptation, elle s'explique principalement grâce à ses caractéristiques, ses qualités physiques. Donc on voit que son poids suit la loi Bergman. C'est un principe qui corrèle en fait la température externe environnementale et le poids de l'animal. Donc plus il va faire froid, plus l'animal va être volumineux et inversement. Plus il va faire chaud, plus l'animal va être petit, va être mince. Donc c'est un phénomène adaptatif qui pour conserver ou rayonner la chaleur en fonction du climat. Donc lorsqu'il fait très froid, l'animal va chercher à conserver la chaleur, donc il va développer un poids beaucoup plus volumineux. Et lorsqu'il fait très chaud, il va au contraire, l'animal chercher à rayonner la chaleur. On voit qu'en effet en Alaska, on retrouve des loups qui font entre 50 à 60 kilos, alors qu'en Arabie, les loups n'excèdent pas 20 kilos. Donc en plus de ça, il va être capable de se déplacer plus ou moins aisément, mais il va quand même être capable de se déplacer assez facilement dans la neige. Et ça s'explique parce que c'est un animal digitigrade, c'est-à-dire qu'il va marcher sur le bout de ses doigts et ses pieds vont être munis de coussinets qui vont être susceptibles de s'écarter. Et donc en fait, ça lui permet de se déplacer plus aisément sur la neige ou sur un sol complètement gelé. Alors maintenant, si on s'intéresse à son aspect comportemental, on peut dire que le loup est un animal très social. Il vit en meute. Donc la meute, elle se crée lorsqu'un couple s'établit sur... Donc là, on parle bien du loup en territoire sauvage. On ne parle pas du loup en captivité parce que les structures de la meute vont complètement être différentes. Donc le loup, à l'état sauvage, il vit en meute et cette meute, elle se crée lorsqu'un couple s'établit sur un territoire et se reproduire. Donc la meute comprend en général 3 à 5 individus pour la France. Donc elle va être composée d'un couple dominant, des sujets des années précédentes et qui ne sont pas encore émancipés. Et en été, on retrouve en plus les louveteaux. Lorsque la meute est vulnérable, elle peut, lorsqu'il n'y a pas assez d'individus ou que les individus voient qu'ils ne sont pas capables de se défendre ou se nourrir seuls, elle peut intégrer d'autres individus qui ne vont pas être affiliés. C'est un phénomène assez rare tout de même. Donc ce nombre d'individus dans la meute, il va dépendre de la quantité disponible au sein du territoire et elle peut aller jusqu'à 10 individus. Mais en France, voilà, c'est 3 à 5. Donc on remarque, sur toutes les études qui ont été faites d'observation, on remarque que les individus, ils coopèrent dans la chasse et ils ont des liens sociaux très puissants et ils vont défendre leur territoire. Le comportement des loups au sein de la meute, il va être soumis à l'influence hormonale. Et ça se voit Parce que seul le couple reproducteur va être en droit, va être capable de se reproduire. Et pour ça, la femelle, en février, au moment de la reproduction, on va observer de fortes tensions dans la meute. Et ces fortes tensions vont être régies donc, par des phénomènes hormonaux. Et la femelle va devenir très agressive avec les autres femelles pour les empêcher de se reproduire. En disant, voilà, il n'y a que moi qui ai le droit de me reproduire. Donc ça va limiter le nombre de naissances. Donc ils se régulent eux-mêmes au sein de la meute. Et on observe que chaque membre de la meute va s'occuper des louveteaux. C'est une éducation qui ne se fait pas, contrairement au lynx, donc qui est un animal solitaire. On n'a que la femelle qui va s'occuper des louveteaux. Chez les loups, tous les animaux, tous les membres de la meute vont pouvoir s'occuper des louveteaux, que ce soit les surveiller lorsque le couple reproducteur part chasser, que ce soit pour les nourrir, parce qu'on va voir que les louveteaux ils vont être nourris grâce à la régurgitation des adultes. Donc si on représente cycliquement une meute, donc on va voir que donc en février-mars, on va avoir la reproduction, donc là, forte tension dans la meute. Au printemps, on va avoir la gestation et donc la mise bas de à peu près en avril-mai-juin. Donc là, on va avoir une cohésion sociale hyper forte parce que la femelle reproductrice, elle va avoir besoin de soutien, ils vont avoir besoin d'aller chasser pour nourrir les petits, donc là, ils vont avoir besoin d'être très soudés. Et ensuite, en octobre, en septembre-octobre, on va réavoir de grosses tensions. Et ça va être au moment où les petits vont commencer à chasser. Les petits du printemps vont commencer à aller chasser. Et où les jeunes, les subadultes de l'année passée, vont avoir envie de s'émanciper. Donc là, on va avoir des tensions. Et on retrouve à nouveau une cohésion sociale très forte de novembre à janvier, avant la reproduction. On voit que j'ai parlé en septembre-octobre que les subadultes vont parfois se disperser. Donc la dispersion, c'est ce qu'on appelle communément le loup solitaire. C'est-à-dire qu'une fois adultes, les loups vont avoir deux possibilités. Soit ils restent dans la meute et ils attendent d'accéder au statut de reproducteur, ou alors ils partent. Ils vont devenir des loups dispersants et ils vont être en attente de trouver un partenaire pour se reproduire. Donc on a trois périodes à la dispersion, donc l'hiver, janvier à mars, parce que là on va avoir une compétition pour la reproduction. Au printemps, c'est très rare, mais bon, il y a des observations qui ont été faites quand même de loups qui se sont dispersés au printemps. Et à l'automne, parce qu'on va avoir une compétition alimentaire, les jeunes du printemps vont commencer à chasser, et donc on va avoir des tensions et les subadultes vont commencer à partir. Donc on voit qu'on a un quart à un tiers des individus qui vont être susceptibles de disperser. Et en majorité, ça va être des jeunes de moins de 2 ans. Donc le succès de cette dispersion, ça va être donc l'abondance de proies, la disponibilité d'un territoire et la capacité à trouver un partenaire. Et les aptitudes à éviter le danger. Et les loups, on voit qu'ils peuvent parcourir plus de 2000 km. Et ils peuvent trottiner à environ des heures à une vitesse de 10 à 20 km/h et courir 60 km/h pendant plusieurs dizaines de minutes. Donc c'est assez énorme, ils peuvent faire des distances considérables. Et donc c'est un phénomène hyper important à prendre en compte pour comprendre les interactions qui existent avec les activités humaines. Parce que ces jeunes loups qui manquent encore quelques fois d'éducation, c'est eux qui vont pouvoir causer des dégâts et nous verrons cela un peu plus tard. Donc ça, c'était pour l'aspect comportemental du loup. On remarque donc maintenant qu'après 60 ans d'absence sur le territoire français, dû à l'élimination du loup, le loup réapparaît en France en 1992. Donc cette réapparition, elle va faire beaucoup de bruit au sein de la société, même observer une division de la société. Cette réapparition, elle va remettre en cause en fait notre système d'élevage exercé jusqu'alors, parce que en 60 ans, avec l'absence de grands prédateurs comme le loup, on a un élevage qui s'est développé sans mesure de protection. Sauf qu'avec ce retour, ça va remettre en question tout ça, parce que les attaques de loups sont arrivées très vite et on voit qu'elles sont de plus en plus nombreuses parce qu'on va avoir de plus en plus de loups et elles provoquent de réelles difficultés en fait. Pour le secteur du pastoralisme. Donc pour comprendre la relation que l'homme entretient avec le loup, on va s'intéresser aux différentes perceptions que l'homme a eues sur le loup au fil des époques, Donc le loup est passé de l'ancêtre mythique à l'incarnation diabolique et du prédateur exterminé à tout prix à l'espèce strictement protégée, vénérée. Nos civilisations ont fait du loup un symbole. Par exemple, il est passé de la mère nourricière à l'incarnation du mal. Donc en fait, il semble exister deux loups qui diffèrent grandement l'un de l'autre, celui de notre imaginaire et l'espèce bien réelle qu'étudient les scientifiques. Et donc, on peut présenter l'évolution de la perception de l'homme sur le loup de manière chronologique. On suppose que les conflits entre l'homme et le loup sont apparus autour de 8000 ans avant Jésus-Christ, lorsque l'homme commençait à pratiquer l'élevage. On sait que l'homme et le loup sont deux espèces qui sont en compétition écologique pour la même ressource. Le loup, c'est un des seuls animaux à occuper le même réseau trophique que nous. Donc ça pourrait être à l'origine de la pérennisation et de la radicalisation de la relation conflictuelle avec le loup. Et on voit bien que dès le Moyen-Âge, il devient diabolisé. Il est considéré comme un ennemi de la religion et de la pensée. Et on voit qu'en 813, sous le règne de Charlemagne, la louveterie est créée. Donc leur rôle, ça va être de contrôler le nombre de loups sur les domaines royaux. Parce qu'en fait, il va y avoir tout un phénomène, parce que certains paysans vont refuser de payer les taxes au royaume, sous prétexte en fait que le loup causait trop de dégâts aux cultures. Donc c'est pour ça que la louveterie va être créée. On a une amplification de cette diabolisation du loup durant l'expansion du christianisme, dès le XIIe siècle. L'Église, elle va organiser des battues au loup, voit qu'il est le symbole du diable, et on va avoir des phénomènes de loups brûlés pour exorciser leurs âmes diaboliques. Et il est vrai que l'agneau est le symbole dans la Bible de l'innocence. Et le loup, en s'attaquant à l'agneau, il va être ainsi considéré comme un animal diabolique. Avec l'émergence des maladies, qui vont jouer un rôle, en fait, qui vont amplifier cette diabolisation encore plus. Donc on voit qu'avec la rage, qui est une maladie mortelle pour l'homme, était à l'époque transmise en fait par le loup, par les chiens, par le loup. Donc on a traqué, évidemment, on a traqué le loup pour tenter d'éradiquer cette maladie. Et on observe à la fin du 19e siècle également, donc on a les armes à feu, on a tout plein de prétextes en fait pour exterminer le loup. Et au 19e siècle, des aides et des primes substantielles en fait vont être versées pour éliminer le loup. Donc tous les paysans, comme j'ai dit, ont un fusil, il est facile d'éliminer, et là on va avoir des primes qui ne sont pas négligeables. Et donc en 1883, on a 1300 loups qui ont été tués. Cette image maléfique, elle fait que renforcer la crainte en fait, vis-à-vis du loup. Et c'est à cette époque qu'on voit l'émergence des histoires de lycanthropie, de loups mangeurs d'hommes. C'est à ce moment-là que la peur, la haine, elles vont être là. À cette époque, on a vraiment peur du loup. Et cette haine, cette peur va être maintenue par les croyances populaires, en fait, par les contes, les contes de Charles Perrault, le loup et cette chevreau, le petit chaperon rouge... Mais ce regard, il ne va pas être inéluctable. On va voir qu'il va avoir une autre façon de percevoir le loup. Dans d'autres cultures, et c'est le cas de la culture amérindienne, je trouve intéressant de parler de ce contraste, en fait, du regard du loup. Donc, dans cette culture amérindienne, c'est des peuples qui vont être essentiellement chasseurs, chasseurs-cueilleurs, mais ils vont chasser d'une façon, en fait, ils vont suivre les troupeaux de bisons au rythme des saisons. Donc c'est un peuple qui est nomade, il se déplace constamment à la recherche de gibier. Et on va voir qu'il va exister une identification volontaire au loup. On voit que plusieurs tribus en fait, se sont même inspirées de leur technique de chasse. C'est le cas de la tribu des Shoshones aux États-Unis, une tribu amérindienne, qui ont observé le loup qui poussait les bisons au bord de falaises pour faire tomber les proies et pour pouvoir venir les manger sans avoir eu à les chasser. Et ils ont aussi observé, ils se sont rendus compte que lorsqu'un homme approchait du troupeau, on avait un sentiment de panique, une peur du troupeau, et donc il était beaucoup plus difficile de chasser ces animaux. Mais ils ont observé, lorsque le loup entrait dans le troupeau, il n'y avait pas de peur chez les bisons, il n'y avait pas une peur panique, et donc le loup pouvait se servir très facilement, en fait, il pouvait chasser assez facilement. Et donc... Bien que ces tribus, les Shoshones, ils ne tuaient pas les loups, ou alors en cas d'extrême nécessité, ils ont quand même récupéré leur peau Ils ont récupéré la peau des loups et ils se sont mis à chasser en rampant dans les prairies. Avec la peau sur leur dos et en rampant dans les prairies. Donc c'est assez... on voit bien le contraste entre la culture européenne de l'époque et cette culture-là, qui se sont inspirés en fait du loup pour chasser. Et on voit donc le loup aussi était considéré comme un ange gardien qui, selon la légende, si nous voyons en vision, en rêve, un loup blanc, c'est que l'animal nous a été envoyé comme un ange gardien pour nous protéger. Donc voilà, il y a tout un imaginaire, des légendes qui sont bienfaitrices, en fait, par rapport au loup, contrairement à nos contes à nous de Perrault et de Grimm qui entretiennent cette peur du loup. Mais alors, pourquoi cette différence de perception, en fait, de cet animal ? Cette contradiction, elle s'explique, en fait, parce que... la culture amérindienne, donc leurs activités qui vont être complètement différentes de celles qu'on pratique en Europe. Un autre rapport au vivant. Alors maintenant, si on retourne en France, c'est à l'automne 1992 que des gardes du parc du Mercantour aperçoivent deux loups. Donc son retour, hein, comme on l'a dit, il a suscité beaucoup de polémiques. Parce que sa provenance, elle n'était pas claire. Est-ce qu'il s'agissait d'une réintroduction, d'une escapade de loups de captivité ou d'un retour naturel? En réalité, maintenant, nous savons que le loup est arrivé naturellement en France. Ce n'est pas une réintroduction. Donc ces deux loups qui sont aperçus en 92, ils proviendraient en fait de Toscane, au nord-ouest de Florence, et donc à 300 km du parc national du Mercantour. Mais alors, on peut se poser la question, pourquoi il est arrivé en France? Eh bien, l'exode rural, ça peut être une des causes de son retour. Et en effet, en fait, on observe que les surfaces agricoles ont baissé. Et ça, c'est très favorable au retour de l'espèce. On observe une augmentation de la surface forestière. Le boisement progresse de 0,6% par an. Donc c'est assez énorme depuis les années 50. Donc ça, cette progression de la forêt, ce délaissement des parcelles agricoles, ça permet une augmentation de l'habitat des ongulés et des petits mammifères. Donc une augmentation de la source de nourriture. Le loup est revenu en 92, on a dit qu'il a été diabolisé, mais on remarque quand même un revirement de perception de l'homme. Avec ce qui illustre ce revirement de perception, c'est sa protection en 1996. Donc voilà, le loup, c'est probablement une des espèces en fait, que l'homme s'est le plus acharné à détruire. Et il s'agit aussi de l'animal le plus diabolisé. Et donc dans de nombreux pays, le jour est toujours considéré comme nuisible et ailleurs, sa protection est remise en cause. Aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, l'élevage est marginalisé, il passe d'une espèce à exterminer à une espèce strictement protégée en l'espace de deux générations. On peut se demander pourquoi ce revirement de situation face à ce statut de protection. Ça peut s'expliquer parce qu'on voit que les populations de loups vont être en accroissement depuis 1992. Aujourd'hui, selon l'OFB, il y a une augmentation des indices de présence du loup. Et on voit qu'en 2021, l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, a enquêté sur ces indices de présence. Et ils sont passés de 1000 indices de présence en 2016 contre 2400 en 2021. Et en 2023, on comptait 177 zones de présence permanente. Donc une zone de présence permanente, c'est lorsqu'il y a une meute établie deux hivers de suite. En 2021, on n'en avait que 145. À la sortie de l'hiver en 2023, on compte, donc ça c'est les chiffres les plus récents, on compte environ entre 1000 et 1200 individus. En France, on voit que 25% des indices de présence du loup ont été récoltés hors du massif alpin. On en a déjà un peu parlé, mais on va s'intéresser plus précisément aux interactions du loup avec le monde du pastoral. Alors, le loup, comme on l'a dit tout à l'heure, peut s'en prendre aux troupeaux dans le pastoralisme. Donc le pastoralisme, c'est l'élevage d'animaux en liberté, semi-liberté, sur un espace. Mais ce pastoralisme, il permet de garder nos écosystèmes montagnards tels que nous les connaissons, en permettant que le milieu reste ouvert, évitant l'embroussaillement, les incendies... Et la présence du loup va remettre en cause tous ces principes. Les prédateurs donc, ont évolué afin de traquer et tuer les proies pour s'en nourrir. Et les proies elles-mêmes ont évolué afin de pouvoir échapper aux prédateurs. Donc ça forme en fait un équilibre prédateur-proie. Mais cette relation, elle peut être modulée par certains facteurs. Mais à moyen ou à long terme, ça revient toujours à l'équilibre. Car écologiquement parlant, le prédateur ne doit pas en fait, exterminer toutes ses proies et ne doit pas tuer toutes ses proies faute de disparaître à son tour. Mais on voit bien que dire que le prédateur, il va tuer uniquement pour se nourrir, c'est très simpliste en fait. C'est le fait que les proies ne se laissent pas tuer qui va réguler le mécanisme. Un prédateur pourrait tuer plus qu'il ne faut, mais c'est le fait que les proies ne se laissent pas tuer qui va réguler le mécanisme. Mais cet équilibre, proie-prédateur, est assuré uniquement en milieu naturel. Il peut arriver que certains facteurs environnementaux modifient cet équilibre en faveur des prédateurs, comme l'abondance de neige, où les ongulés ils ont du mal à se déplacer, les loups vont pouvoir tuer 5 fois plus. Mais toutes les carcasses, elles vont pas toujours être exploitées, mais elles peuvent profiter aux charognards. Or, on observe donc un phénomène non prévu par l'évolution des prédateurs, qui est l'émergence du bétail. Le bétail, c'est des proies qui ont été retirées de leur milieu, et chez lesquelles l'homme a favorisé des caractéristiques qui lui seront utiles. Elles sont sorties d'une coévolution naturelle qui les a fragilisées par rapport aux prédateurs. Et en effet, hein, l'homme il les a rassemblées dans un environnement très vulnérabilisant, avec l'absence de zone de refuge. Il a augmenté leur docilité, donc ça va être au détriment des comportements antiprédateurs. Hein. Donc l'être humain, il s'est en quelque sorte substitué à l'évolution naturelle en protégeant lui-même ses bêtes. En fait, elles ne peuvent plus se protéger elles-mêmes, c'est l'homme qui va les protéger. Donc c'est ainsi qu'un équilibre millénaire s'est interrompu en faveur des prédateurs, lesquels, dans ce contexte particulier, ils peuvent être amenés à tuer plus que nécessaire à leur survie. C'est par exemple, dans les Alpes françaises, les loups tuent en moyenne 3 à 80 par attaque. Mais parfois, donc on peut se dire, bon, 3 à 80, ok, ça représente une perte, mais ça va être pour nourrir la meute sur un certain nombre de jours. Mais parfois, c'est un véritable massacre, c'est jusqu'à 60 ovins. Sans compter les cas de dérochement, donc lorsque les prédateurs poussent les ovins au bord d'une falaise. Et ça, c'est ce qu'on appelle le surplus killing. Alors, il n'existe pas de corrélation entre la taille du troupeau, le nombre d'attaques. Certaines zones où les troupeaux sont petits, il peut y avoir plus d'attaques que sur les gros troupeaux. Voilà, il n'y a pas de corrélation sur ça. Les attaques, elles vont être plus fréquentes au printemps durant l'été. Bah oui, c'est là où les femelles mettent bas, où les petits ont besoin de nourrir, etc. Et on observe donc que la présence de ces prédateurs elle va avoir des conséquences hein, sur le troupeau et sur le berger. Des conséquences comme du stress chez la brebis. Donc ça peut provoquer des avortements, une baisse de la fécondité, des disparitions d'animaux qui ne vont pas être indemnisés. Le berger va être obligé d'adopter une nouvelle conduite du troupeau, des frais nouveaux en rapport avec la mise en place d'une protection de troupeau, un chien, etc. Une pénibilité des conditions de travail, donc il va falloir garder permanent le troupeau, donc ça va entraîner beaucoup beaucoup de fatigue. Une diminution du poids des agneaux après des attaques, donc le stress, etc. Et donc ce qui marque les esprits et ce qui occasionne le plus de dégâts au troupeau, c'est le nombre de bêtes tuées, blessées en une attaque. En une nuit, enfin maintenant on ne parle pas forcément des attaques que de nuit, hein, parce que 50% des attaques sont diurnes, mais ce qui marque le plus les esprits, c'est voilà, le nombre de bêtes tuées en une attaque. Donc avec, comme j'ai dit tout à l'heure, avec jusqu'à 60 brebis tuées et parfois blessées, mais laissées vivantes. Donc une brebis blessée vivante, on va être obligé de l'euthanasier. Donc ça représente une perte financière, mais pour l'éleveur qui s'attache à ses bêtes, c'est aussi une perte émotionnelle. Donc ça, c'est le surplus killing. Alors si on explique le surplus killing, ça pourrait être la persistance du mouvement autour du loup après qu'il ait tué un ovin. Dû en fait à la panique du reste du troupeau, le loup il va rester enclenché sur la séquence comportementale de prédation. Il va pas pouvoir passer à la consommation et en fait ça va le conduire à répéter en boucle les patrons moteurs de poursuite. Morsure de préhension puis morsure de mise à mort. Il recommence. Il va rester enclenché dans cette séquence. Et cette boucle elle va s'arrêter uniquement lorsqu'il va y avoir une apparition de facteurs internes. Donc fin de l'excitabilité des bêtes, un chien de protection, etc. L'effet de groupe, elle doit également maintenir une excitation élevée et elle peut contribuer à augmenter les victimes lors de l'attaque. Donc une des explications aussi également du surplus killing, ça va expliquer le fait que les prédateurs peuvent profiter de l'opportunité de faire des réserves, parce qu'ils ne vont pas savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir refaire des réserves. Mais il semblerait aussi principalement que ce soit des subadultes, donc des jeunes de l'année précédente, des jeunes loups en dispersion qui s'attaquent le plus fréquemment aux troupeaux dans un cas de surplus killing. Parce que en fait, ils vont apprendre à chasser, ils vont tester les chiens de protection, tester les protections aux troupeaux. Enfin, c'est des jeunes un peu fous qui vont plus pouvoir s'arrêter. Donc il y a un système qui a été créé par Jean-Marc Landry, un éthologue, qui a permis d'observer et d'étudier les attaques du loup sur les troupeaux. Et malgré ce qu'on peut penser, il en a conclu, après ses observations, que lorsque c'est une meute qui s'attaque au troupeau et qu'il y a un cas de surplus killing, en fait, il n'y a pas de concertation lors de la chasse sur un troupeau. Il n'y a pas de concertation au sein de la meute. Par exemple, un cas qui va arriver souvent, c'est qu'un loup tue et consomme une brebis. Les autres membres de la meute, ils ne sont pas mis au courant qu'une brebis a été tuée. Donc, ils continuent à tuer des brebis. Et en fait, là, on va observer une politique du chacun pour soi. Donc, ça pourrait être aussi un des cas du surplus killing. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que la meute, elle va chasser de cette façon-là, chacun pour soi, uniquement lors d'attaques sur troupeaux. Lors d'attaques sur la faune sauvage, ça ne va pas du tout se passer comme ça. Ils vont tous coopérer pour chasser une proie. Mais donc, dans 60% des cas, c'est un loup seul qui s'en prend au troupeau. Donc ça, c'est un chiffre qui vient de l'étude menée par Jean-Marc Landry. Le loup est là, les attaques sur le troupeau existent. Jean-Michel Bertrand nous dit dans son film « Vivre avec les loups » qu'on le veuille ou non, il va falloir cohabiter. Il existe un plan national loup qui met en place différentes mesures qui entend aider les éleveurs à protéger leurs troupeaux en subventionnant certains systèmes de protection. Ce plan national loup a été remis en 2024 et il a suscité aussi beaucoup de polémiques parce qu'on voyait que personne n'était d'accord. Les associations de protection du loup, les éleveurs, personne n'était d'accord sur les mesures prises dans ce plan national. Donc on voit que malgré la mise en place de systèmes, les éleveurs déplorent tout de même des attaques. Ça pourrait s'expliquer car les systèmes de protection sont essentiellement utilisés de manière traditionnelle et ils ne prennent pas en compte en fait la manière dont ils fonctionnent sur le prédateur et comment le prédateur peut s'y adapter ou en exploiter les failles. La protection, en fait, elle est plutôt, aujourd'hui, hein, elle est plutôt abordée d'un point de vue de l'être humain sans prendre en considération la variable loup qui conduit donc à une baisse de l'efficacité de ce système de protection. En effet, en fait, on a évalué la viabilité des chiens de protection uniquement en regardant son comportement face à un humain et en supposant qu'il agisse de la même façon face à un prédateur. Les études sur les outils de protection ne sont pas assez rigoureuses et trop légères à l'heure d'aujourd'hui. Donc on observe différentes catégories d'outils de protection. Il y a une catégorie qui empêche le prédateur d'accéder au bétail. Donc ça va être les bâtiments, les enclos, les barrières électriques, etc. Et les outils de protection qui modifient le comportement du loup sur un terme très court à court. Donc tout ce qui peut générer des comportements d'évitement engendrés par la méfiance, la peur, comme placer à côté du bétail des objets inhabituels qui bougent avec le vent, se base sur la peur de stimulus inconnus. Les effaroucheurs, ils vont être limités dans le temps, car le loup, en fait, il va s'y habituer. Et on a aussi les outils de protection qui modifient le comportement du loup sur un terme moyen à long. Donc l'animal va adapter ses comportements en fonction des conséquences. Si elles sont négatives, la probabilité de réitérer ce comportement, il va diminuer. C'est le principe de ce qu'on appelle le conditionnement opérant. Plus l'intensité de la conséquence d'un comportement sera traumatisante, plus le conditionnement sera rapide. En fait, dans la réalité, les résultats ne vont pas être concluants. Parce que c'est très compliqué, il faudrait que le loup associe le bétail à quelque chose de désagréable ou de dangereux qu'il préférerait éviter. Mais malheureusement, les expériences sur le terrain montrent qu'il est difficile d'obtenir ce type d'apprentissage parce qu'on ne sait pas toujours à quoi la punition va être associée. L'environnement, en fait, il est rempli de nombreux autres stimuli. Donc pour pallier à ça, il y a un nouveau système qui est le collier répulsif. Le collier répulsif, donc porté par la brebis, il va détecter son stress et diffuser un répulsif qui devrait stopper l'action du prédateur. Pour éviter que le loup s'habitue à un stimuli complètement inconnu, sera diffusé juste avant l'émission du répulsif afin de créer en fait un conditionnement classique entre traumatisme subi et stimulus. Et on a les chiens de protection. Donc le chien de protection, il doit rester constamment au troupeau. Et aujourd'hui, en fait, ça semble la meilleure méthode de protection, mais à condition qu'il soit bien utilisé. Son rôle au chien, ça va être de dissuader l'intrus d'entrer dans le troupeau. Il va donc le repousser. Si celui-ci s'approche du troupeau, mais il ne va pas le tuer. Il peut se battre, mais il n'y a pas de corrélation entre agressivité contre le loup et agressivité contre les hommes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien différencier. Et le chien est capable de faire la différence. On voit qu'il y a des ânes ou des mulets qui sont également utilisés, mais leur efficacité, elle n'est pas aujourd'hui prouvée. Et un autre moyen est utilisé sous réglementation, hein, c'est le tir de loup. Les tirs aléatoires de loup auraient une incidence sur... Donc les tirs aléatoires, c'est on tue un loup dès qu'on en voit, pas forcément lorsqu'il y a un dégât au troupeau, etc. Ils auraient une incidence sur la biologie du groupe. Il pourrait déstructurer le groupe, et donc en déstructurant la meute, ça va favoriser la dispersion des jeunes. Et on a vu que les jeunes, c'était eux qui tendaient à attaquer des troupeaux de manière de surplus killing, etc. Il va être aussi, donc le tir aléatoire aurait pour but d'exterminer la population des loups, mais dans notre contexte social aujourd'hui, avec l'augmentation du nombre de meutes, la déprise agricole, etc., c'est impossible d'exterminer la population de loups. Et on a le témoignage d'un berger, il nous dit qu'il a connu l'existence d'une portée de louveteaux à proximité de son troupeau, qui n'a posé aucun problème. Durant toute la saison, un jour, la louve a été tirée, et alors qu'il avait été épargné tout l'été, du moment où la louve a été tuée, il a ensuite essuyé de nombreuses attaques. On peut se poser la question sur ces tirs aléatoires. Et de plus, en fait, dans le cas d'une espèce sociale comme le loup, une expérience négative, elle pourrait être transmise à d'autres individus de la meute par apprentissage. Mais si un loup est tué, il peut en aucun cas en fait transmettre cette expérience. Et selon l'OFB, l'Office français de la biodiversité, le manque de données, elle empêche de tirer de réelles conclusions sur l'efficacité ou non des tirs de loup. Mais il est quand même hyper important de ne pas exclure les prélèvements légitimes de légitime défense du loup. Parce que un loup qui arrive, qui s'apprête à tuer des brebis, on sait bien qu'il ne faut pas exclure un tir à ce moment-là, à ce moment précis, pour éviter des dégâts. Alors, pour ce qui est des outils de protection, on voit que le chien, ça reste aujourd'hui le meilleur outil de protection lorsqu'il est bien utilisé, lorsque les éleveurs sont accompagnés, l'utilisation du chien. Mais de nouvelles techniques et une meilleure connaissance en fait du facteur loup dans l'élaboration de ces techniques va permettre de diminuer les dommages. Il va être intéressant de se concentrer sur une modification durable du comportement du loup. C'est le cas du collier répulsif. Selon Jean-Marc Landry, ce serait l'avenir des outils de protection. Pour conclure cet épisode sur le loup, on peut dire que pour concilier les activités anthropiques et la présence du loup, il semble primordial en fait de tenir compte dans nos activités du loup, de sa personnalité, de ses intentions du moment, de la structure du groupe et toutes les relations qu'il établit en amont d'un acte de prédation. Pour cohabiter avec le loup de manière le plus sereine possible, il est nécessaire d'apprendre à le connaître.
Merci d'avoir été avec nous pour cette présentation. N'hésitez pas à nous suivre et à nous rejoindre pour les prochains épisodes sur le thème de l'environnement. Les nouveaux podcasts seront publiés le lundi soir. Vous pourrez les retrouver sur toutes les plateformes audio et sur l'audioblog d'Arte Radio. À très vite!